Beszéd.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
17 heures aux urgences, morte dans des toilettes. Imaginez, c'est ce qu'a vécu cette aînée qui s'est présentée à l'hôpital à Joliette. Elle a 73 ans. Elle a fait un anévrisme dans la salle de bain de l'urgence. 17 longues heures après son arrivée à l'urgence. Ça faisait 5 fois qu'elle faisait des syncopes. Elle s'est présentée, on l'a mise en priorité 4. Là. Priorité 4, là, je pense que c'est la même priorité que quelqu'un qui s'est coupé le doigt en coupant des carottes. Là, mais pas très fort, là, ça saigne à peine. Priorité 4. Elle a fait un anévrisme. 17 heures, 73 ans. Est-ce que c'est ça, le système de santé? Est-ce qu'il faudrait qu'on ait la peur au ventre quand on se présente à l'urgence? Parce qu'on ne sait pas sur quel professionnel on va tomber, quel chiffre, quelle priorité va nous être donnée et si on va en sortir vivant ou pas. C'est-tu normal de mourir dans les toilettes d'une urgence? Parce que personne ne s'est donné la peine de venir voir si on se porte bien, si on se porte mieux et de nous redonner une nouvelle cote de priorité. Elle a 73 ans, je le redis, là, j'arrive pas à y croire. 17 heures, 73 ans, morte dans les toilettes après 5 syncopes, un anévrisme. Honnêtement, c'est gênant. C'est vraiment gênant. Le sentiment de confiance envers notre système de santé est en train de s'étioler. Et devoir aller à l'urgence, ça commence à être un stress. Pas parce qu'on est malade, mais parce qu'on ne sait pas si on va être soigné, si on va avoir les soins requis. Et si on va pas juste se rendre compte que c'est un peu trop tard pour nous, pas parce qu'on voulait pas, mais parce que eux ne voulaient pas. Bienvenue à Cube, bienvenue à votre nouvel épisode.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
Le Sénat français s'est opposé ce jeudi à la ratification du traité CETA de libre-échange finalement entre l'Union européenne et le Canada par un premier vote dans l'hémicycle. Et ça, c'est grâce à une alliance gauche-droite de circonstances. On en parle avec Pierre-Marc Johnson, ex-premier ministre du Québec. Bonjour, Monsieur Johnson.
Bonjour.
Comment lire cette nouvelle-là, le Sénat qui finalement utilise un traité de libre-échange qui est en application depuis 2017 comme arme politique?
Ben, c'est pas nouveau hein, que les tensions dans le monde agricole se répercutent un peu partout. Le gouvernement français, comme un certain nombre de gouvernements européens, ont beaucoup de difficultés avec le monde agricole, qui est fort bien organisé, qui est un lobby puissant. Cette fois-ci, leur lobby s'est exercé via le Parti communiste, les députés communistes au Sénat, pour que soit inscrit la ratification, dans le but de rejeter la ratification. Mais en pratique, il faut dire que ça ne changera rien. Alors, je m'explique. En ce moment, le traité est en ce qu'on appelle une application provisoire. Cette application provisoire, qui dure depuis plus de 5 ans maintenant, a permis un certain nombre de progrès de part et d'autre sur le plan des exportations. Mais pour empêcher l'application provisoire, il faut que 15 pays au niveau du Conseil de l'Union européenne, qui représentent 2/3 de la population, décide de mettre fin à l'application provisoire. Or, c'est pas parce que en France, le Sénat, dans un contexte politique un peu survolté, a pris cette décision que ça va changer l'application des choses, en tout cas pas pour un horizon prévisible.
On comprend que la grogne des producteurs agricoles, notamment des agriculteurs en France, mène à ce genre de choix. Et puis finalement, c'est un stunt politique là pour attirer l'attention sur les difficultés du monde agricole en France. Mais au Québec aussi, on en arrache. Nos agriculteurs en arrachent. On a vu les manifestations. Est-ce que vous pensez que L'incertitude économique actuelle, le fait que plusieurs secteurs de l'économie en arrachent de part et d'autre de l'océan, vont mettre à mal l'exécution des traités commerciaux?
En tout cas, sûrement que ça va ralentir la conclusion de nouveaux traités.
OK.
Ça, c'est sûr. Est-ce que ça va mettre à mal les traités qui déjà s'appliquent? Je ne pense pas, normalement. Dans le cas de l'agriculture québécoise, et les agriculteurs le savaient depuis 6 ans, 7 ans même, les Français ont occupé leur part des quotas nouveaux en matière de fromage, essentiellement. Et en matière de vin, ben, il n'y a jamais eu de vrais quotas. Et la France a augmenté beaucoup ses exportations de vin. Mais dans le cas du Québec, on a augmenté de façon phénoménale nos exportations de canneberges, de fruits congelés, de bleuets, nos produits en aluminium, nos appareils de mesure physique et chimique pour les laboratoires, et tout ça de façon extrêmement importante. Alors, je ne vois pas, moi, le monde agricole au Québec en ce moment mettre fin ou s'organiser pour essayer de mettre fin, ce qui serait presque impossible dans le système canadien en ce moment, mettre fin à cet accord.
Vous avez été le négociateur pour le Québec dans le cadre des négociations entourant l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et ce sont des moments charnières dans l'histoire de développement d'un État ou même d'une nation comme le Québec. Comment le Québec tire son épingle du jeu de cet accord de libre-échange dans le Canada?
Oui, alors... En fait, on a eu l'occasion de le faire dans la négociation. Hein.
Mais en fait, c'est le Québec qui a forcé le Canada, en fait, qui a mené le Canada à signer cet accord plutôt que le contraire, n'est-ce pas?
Ben, vous avez absolument raison. M. Jean Charest, alors premier ministre, a poussé pour qu'une négociation commence. En 2008, la négociation a commencé en 2009, elle s'est terminée en 2017, et depuis, l'accord est en vigueur. Mais le Québec était aux tables. Il était aux tables pour défendre à la fois ce qu'on appelle nos demandes ou nos intérêts offensifs. Hein, qu'est-ce qu'on voulait, nous, de cet accord? Et qu'est-ce qu'on voulait ralentir de la volonté des Européens dans l'accord avec nous? Et c'est comme ça qu'on a réussi à protéger le système de gestion de l'offre dans le monde agricole, même si on a accordé un certain nombre de quotas dans le cas du fromage.
Fromage, oui.
Et c'est comme ça que le Québec a réussi à abolir à toute fin pratique les tarifs sur les produits que nous exportons en Europe. Alors, c'était vrai pour le homard, les crevettes, c'était vrai pour... et c'est vrai sur l'ensemble des grandes productions maraîchères. Les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sont des exemples qui profitent à des régions, par exemple, comme le centre du Québec en ce moment. Alors, le libre-échange, c'est toujours des deux côtés, puis il s'agit de voir si globalement ça fait notre affaire. Globalement, ça fait notre affaire, cet accord, et je crois que globalement, ça fait l'affaire de la France, mais est intervenue cette question hyper politisée autour du monde agricole, où je dois dire il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé, et le Parti communiste en a profité pour, à toute fin pratique, forcer une oui. considération de l'accord devant le Sénat. Le Sénat, il faut s'en rappeler, en France, n'est pas fait d'élus directement élus au Sénat. Ce sont des gens qui représentent le monde municipal. Ce sont pas les individus, hein, comme c'est le cas au Sénat.
Non, c'est comme des
américain.
Délégués finalement.
Ouais, c'est des sortes de délégués des régions, des communautés, des grandes agglomérations françaises. Et en pratique, le monde rural y est très fort, puis les pressions sur le monde rural ont fait que le Parti communiste, étant anti-libre-échange, point, a réussi à créer une situation où finalement les gens, pour se débarrasser de la question, ont dit « ben on vote pas pour », en étant conscient, pour la majorité d'entre eux, que ça n'aurait pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences sur les relations commerciales entre le Canada et l'Union européenne, et entre le Canada et la France. Le seul effet possible de cette décision en ce moment, c'est sur la question qu'on appelle le recours investisseur État, qui est une affaire un peu spécialisée dans le cas où un investisseur se plaint que l'État, en fait, l'a exproprié sans l'indemniser. Et ce genre de situation-là se pose extrêmement rarement entre le Canada et l'Union européenne.
Monsieur Johnson, la question de la gestion de l'offre, là, la gestion de l'offre, j'ai bien l'impression que, bien que ce soit un principe auquel on tient au Canada, et on est un des rares, voire le seul pays qui garde ce principe pour la volaille, c'est la volaille, les produits laitiers notamment.
Et les œufs.
Et les œufs, et qui font en sorte que, on le voit avec les États-Unis, lorsque vient le temps de renégocier un accord de libre-échange avec les États-Unis dont on est dépendant. Cette question est toujours au cœur des discussions. C'était le cas avec l'Union européenne. Et on voit que la colère agricole a des effets politiques. Est-ce qu'on est toujours gagnant lors des négociations d'accords de libre-échange à défendre mordicus la gestion de l'offre et jusqu'à quand pourra-t-on le faire?
Oui, alors je vais vous donner simplement une illustration, un petit événement qui s'est déroulé au début de la négociation avec l'Europe et qui illustre ce que vous dites. Le négociateur européen me dit, on est dans une réunion sociale, les choses se disent très gentiment, on n'est pas en train de négocier. Puis il me dit, évidemment, il dit, du côté du Québec, vous allez accepter qu'on mette la gestion de l'offre sur la table, c'est-à-dire qu'on accepte la négocier. J'ai dit, oui, on va faire ça avec grand plaisir si vous me garantissez que vous allez, vous, abolir les subventions à l'agriculture en Europe. Alors, dans le fond, on a un système chez nous qui, au lieu d'amener l'État à subventionner les producteurs d'œufs et les producteurs laitiers et de volailles, on a un système qui fait qu'on leur garantit un marché et on garantit ce marché-là en limitant la capacité des étrangers d'entrer sur notre marché. Mais c'est sûr que chaque fois qu'on défend ce système, dans des pays où le système d'appui au monde agricole est différent, c'est-à-dire qui est fait par subvention, c'est sûr que ça nous met dans une position défensive difficile.
Ben, c'était
ma question,
d'ailleurs.
Et qu'on a de la difficulté à avancer sur d'autres sujets.
Ben voilà, c'était ma question, parce que par la force des choses, on a tellement sacralisé la gestion de l'offre, elle est tellement importante pour nous qu'on fait beaucoup de concessions, ou à tout le moins on laisse tomber des gains offensifs qu'on pourrait faire au nom de la gestion de l'offre. Est-ce que c'est réellement payant que de continuer à protéger de manière aussi défensive et proactive la gestion de l'offre, quitte à laisser faire des gains majeurs?
Oui. Ben, c'est sûr que si on le regarde dans l'abstrait, là, puis on ne tient pas compte de la réaction du monde agricole, c'est sûr que défendre la gestion de l'offre, c'est difficile tout le temps pour le Québec et le Canada dans des négociations internationales, et que ça nous coûte dans d'autres secteurs. Mais en même temps, si on abolit le système de gestion de l'offre,
va falloir payer.
Ça veut dire qu'il va falloir mettre un niveau de subvention absolument gigantesque pour permettre au monde agricole de conserver des revenus raisonnables. Et en ce sens-là, je suis pas sûr, surtout quand on regarde les déficits auxquels s'exposent les gouvernements, je suis pas sûr que se mettre à subventionner le monde agricole, c'est dans les priorités des gouvernements.
Avant de vous laisser aller, Monsieur Johnson, vous avez été premier ministre du Québec. Aujourd'hui, nous assistons au début des cérémonies entourant les funérailles d'un ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, qui a marqué l'histoire du pays, le Canada, mais qui a également été quelqu'un qui croyait au Québec. Comme ancien premier ministre, et vous avez été négociateur pour le Québec dans l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Lui, il a signé, réussi à négocier avec les États-Unis l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Comment vous voyez la perte de Brian Mulroney?
D'abord, personnellement, je le connais, j'ai eu le plaisir de rencontrer son épouse plusieurs fois aussi, en même temps que dans des événements sociaux, mais en même temps, j'ai eu l'occasion de travailler avec Brian Mulroney, à la fois comme premier ministre, quand j'ai négocié la présence du Québec au sommet de la francophonie avec lui. Il a démontré une grande ouverture. Deuxièmement, c'était un homme qui était un visionnaire sur le plan des grandes politiques, notamment en matière internationale. Et c'était fondamentalement un homme politique qui aimait les gens. Et on le sentait, et les témoignages de chaleur, pour pas dire carrément d'amitié, venant de la population au moment de son décès, en fait, sont un reflet de ce qu'était cet homme qui était très près des gens. Puis en but de ça, c'est un homme qui était dédié à des enjeux fondamentaux comme les droits de la personne, ce qui l'a amené à jouer un rôle de leader sur le plan international pour que survienne la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et en ce sens-là, moi, je n'ai que de bons souvenirs et surtout beaucoup d'attachement à ce que cet homme a été. C'était un homme qui aimait la franchise, la loyauté, et qui en faisait preuve constamment.
Mais Pierre Bergensen, ancien premier ministre du Québec, ancien négociateur pour le Québec dans dans le cadre des négociations entourant l'entente de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous entendre, Monsieur Johnson.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Les fameux fonds de travailleurs, moi, j'y connais rien, mais moi, je connais quelqu'un qui sait tout là-dessus. Il s'appelle Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Jean-Sébastien, toujours un plaisir de te recevoir, puis particulièrement en studio.
Ben, merci de me recevoir.
C'est quoi ça, les fonds pour les travailleurs?
Ben, les fonds de travailleurs, on les connaît comme le fonds de la FTQ, le fonds d'action de la CSN. C'est des fonds, en fait, qui sont constitués par justement ces deux grands syndicats-là, mais qui sont subventionnés par le gouvernement. Okay. Parce que leur objectif avec les fonds qui sont cotisés, c'est de développer l'économie locale, développer des jobs avec un revenu moyen plus élevé. Donc, en mettant de l'argent à l'intérieur de ces fonds-là, fonds de la FTQ, fonds de la CSN, le gouvernement va donner un crédit d'impôt de 30% sur la cotisation pour avoir contribué au développement économique du Québec puis du Canada.
Mais est-ce qu'on est obligé d'être syndiqué avec la FTQ pour avoir accès au FSTQ ou avec Fonds d'action ou avec
autre syndicat? Ceux qui vont dans ces syndicats-là, on va pas les obliger. On va les inciter à aller cotiser là-dedans directement sur leur paye, mais n'importe quel contribuable qui a des revenus d'emploi aurait le droit de cotiser à ces fonds-là.
Mais il y a eu une modification.
Oui, c'est ça l'affaire. En fond, on a publicisé ça l'année passée avec le budget du ministre Girard qui disait... Parce qu'en fait, là, le problème, Yasmine, c'est avec ces fonds-là, il y a une limite d'action à chaque année que la FTQ ou que la CSN fait. Puis là, ça arrive que c'est juste les riches qui achètent les premiers. On va acheter, c'est 5 000 maximum. Il y a beaucoup de riches qui achètent ça, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, il n'y a plus d'action pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, ce que le ministre Girard a décidé de faire, c'est de dire d'enlever l'accès à ceux qui font en haut de 112 655 $ de revenus imposables. Donc, on dit ces gens-là, ben, à partir de 2024, qui était au mois de janvier, ben, si vous cotisez, vous avez le droit de cotiser, c'est juste que vous n'avez plus le droit au crédit d'impôt. Puis ça vaut pas mal moins la peine si on n'a pas le droit au crédit d'impôt parce que c'est très investi au Québec. Fait que vous ne voulez pas dans un portefeuille d'investissement, c'est plus risqué quand c'est juste investi dans une place région, géographique. Ouais. Donc, on avait mis cette règle-là pour 2024.
OK. Alors, finalement, les personnes qui font plus que 112 655 ouais. peuvent plus investir. Bon, en fait, ils pourraient toujours investir, mais ils vont pas le faire parce que c'est plus risqué, moins rentable potentiellement. Mais à quel point... En fait, qui a fait du lobbying pour qu'il n'ait plus accès à ça?
Ouais. Maintenant, en fait, dans le fond, là, Yasmine, ça, c'était l'année passée, c'était ça. Puis là, ben, ça a été applicable là. Mais là, c'est l'inverse. On a décidé de reculer. Ah. Sur ça. Oui, tout à fait, ça a été annoncé un vendredi, tu sais, quand plus personne regarde...
Vendredi 17h?
Oui, quand personne regarde les communiqués.
Quand j'étais attaché de presse, je faisais ça.
Regarde
vendredi
ça.
17h, on voit ça sur le fil de presse, ferme le téléphone.
Mais là, c'est arrivé un vendredi, puis ça passait un peu sous le silence, mais on recule sur ce côté-là. Donc, puis on regarde ça, ben c'est Magali Picard, qui est la directrice de la FTQ, la PDG de la FTQ, en fait, qui a fait beaucoup de lobbyistes auprès du gouvernement de François Legault là-dessus. Puis dans ce qu'on comprend, le deal, ça a été, on veut que vous retardiez ça à 2027. Donc on retarde ça à 2027. En échange, le Fonds de solidarité va investir massivement dans l'accès à des habitations. Donc, c'est un problème actuellement, le volet de l'habitation.
Okay.
Donc, c'est ce qu'on a, c'est ce que j'ai peut-être pas dans le cabinet du conseil, mais... Ce qu'on comprend, c'est que la FTQ va investir près de 100 millions dans le développement de plusieurs habitations. En échange, on
de retarder.
Oui, parce qu'en fait, le fait de ne pas le retarder, moi, je pense que la FTQ avait peur de ne pas vendre toutes les actions qu'il y avait à vendre, parce que tu enlèves toutes les régions plus fortunées accès à ça. Puis c'est pas vrai que quelqu'un qui a un revenu familial de 70 000 va acheter à la place de cette personne-là. Donc, la FTQ a essayé de gagner une couple d'années, puis ça a été repoussé à 2027.
C'est pas pire, donc jusqu'à 2027. Mais là, quand on veut cotiser, on va dire, le 5 000 $ à FSTQ ou à Fonds d'action, à qui on parle? Il faut-tu appeler à FTQ? Comment on fait ça?
Ouais, la FTQ puis la Fonds d'action distribuent eux-mêmes leur fonds, comparativement à plein d'autres compagnies de fonds qui sont distribuées à même les institutions financières ou les courtiers. Mais la FTQ puis la Fonds d'action distribuent eux-mêmes, donc il faut que j'aille sur... Puis ils n'ont pas vraiment de conseiller, là, fait que c'est directement sur le site de la FTQ, le Fonds d'action, que je prends une cotisation, je vais mettre mon spécimen chèque, je peux cotiser ça en REER, je peux cotiser ça en déplacement hors REER aussi. Il faut faire attention aussi avec les fonds de la FTQ, ils ont leur fonds Flex. Le fonds Flex, c'est un fonds comme n'importe quelle autre institution financière qui ne donne pas droit à des crédits d'impôt. Fait qu'il y a beaucoup de gens par quoi qui vont cotiser à ces fonds-là en pensant qu'ils ont un crédit d'impôt additionnel, mais ce n'est pas. La FTQ ont juste diversifié leur offre de produits. Fait que c'est pas le fameux fonds des travailleurs qui donne droit à un crédit de 30%.
Est-ce qu'on a encore le temps pour le faire, pour avoir un crédit d'impôt, ou ça aussi, c'était terminé le 29 février?
On peut encore cotiser à ça. Puis quand on fait des prélèvements automatiques, on va toujours pouvoir en faire. Fait qu'on peut prendre des prélèvements automatiques à toutes les payes, faire ces prélèvements-là. On a accès à ces fonds d'argent-là. Mais on peut aussi faire des versements forfaitaires à l'un ou l'autre. Puis il y a une différence entre les deux, là, celui de la FTQ puis celui de la CSN. La FTQ est beaucoup plus gros, là. Il y a plusieurs dizaines de milliards dans ce fonds-là, tandis que le fonds d'action, il y a à peu près 3,5 milliards de dollars. Donc, c'est pas la même grosseur de fonds. Puis ça paraît un peu sur les rendements à long terme. La FTQ surperforme les fonds d'action.
Est-ce qu'on peut cotiser aux deux, là, 5 000 chacun, si on a le droit juste à 5 000?
Mais c'est ce que certains ont pensé. Je vais cotiser 5 000 aux deux, je vais avoir double crédit, mais c'est sur la déclaration fiscale. Fait que si j'ai mis 10 000 total dans ma déclaration fiscale, ça va topper à 5 000 pour le calcul du crédit. Je pourrais mettre 2 500 dans chacun des deux. Ça fonctionne, je vais avoir mon 5 000, mais ne cotisez pas au-delà du 5 000 $ ça ne donne pas de crédit.
Pour l'optimiser, c'est 5 000, peu importe où vous le mettez, fonds d'action. Très intéressant. Jean-Sébastien Jutra, notre planificateur financier chez Jutra Gestion de patrimoine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Yassine.
Reviens plus souvent.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel Fadel. Yasmine Abdel Fadel.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel Fadel à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
Bon, l'affaire Yves Michaud. Monsieur Michaud, malheureusement, qui est décédé sans avoir obtenu des excuses officielles de l'Assemblée nationale du Québec. C'est ce qu'il espérait avant sa mort, parce que, bon, lui, il prétend qu'il n'a jamais pu livrer sa version des faits. Monsieur Legault a affirmé aujourd'hui qu'il vivait bien avec son vote de l'époque. Toi, tu crois que c'est possible de réparer l'erreur?
Ben, c'est encore possible. Ça va jamais être réparé de manière, on va jamais pouvoir effacer l'histoire. Puis Monsieur Michaud est décédé sans jamais pouvoir les entendre ou les recevoir de manière digne et solennelle comme il se doit. Mais pour sa famille, pour ses héritiers, pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont vu blessé et meurtri, d'avoir été accusé à tort, d'avoir tenu des propos antisémites, ben ils pourront le recevoir, puis ils pourront faire aussi leur deuil de cette triste histoire, triste page de notre histoire parlementaire. Je trouvais dommage les propos du premier ministre aujourd'hui. C'était pas le moment de dire si lui vivait bien ou pas avec ça. C'était le moment de rendre hommage à un homme qui avait le cœur tatoué, qui avait le Québec tatoué sur le cœur, et que, en quelque part, l'Assemblée nationale, qui est un des organes représentant la nation québécoise, là, tu sais, qui représente la société, la nation, lui a tourné le dos sans jamais lui donner l'occasion ni de s'expliquer, ni de réellement jeter un regard sur le crime là de manière désintéressée, ni de prendre le temps finalement juste de laisser la poussière retomber avant de prendre des décisions. Sans procès, sans l'entendre, sans crime, on l'a accusé. Et plusieurs de ses élus se sont excusés à travers les années de manière formelle, avec notamment une lettre qui avait été publiée dans le journal Le Devoir. Mais jamais l'institution qui est l'Assemblée nationale ne s'est, elle, excusée. Elle a encore dans ses annales cette motion condamnant les propos de Yves Michaud, des propos qu'il n'a pas tenus.
As-tu l'impression qu'on n'apprend pas du passé, Yasmine? Parce que récemment, il y a eu cette motion pour dénoncer le choix des mots utilisés dans un récent jugement de la Cour suprême. Évidemment, c'est une histoire complètement différente de celle d'Yves Michaud, mais néanmoins, jugement de la Cour suprême pour désigner les femmes, sans vérifier, sans avoir lu le jugement de la Cour suprême, ça a été condamné.
C'est épouvantable. J'ai l'impression qu'on utilise beaucoup les motions de manière intempestive, sans nécessairement aller au bout de l'histoire avant de les faire voter. Or, un vote d'un élu qui se lève devrait avoir un poids. L'Assemblée nationale qui parle d'une seule voix, ça devrait avoir un poids. Et quand ça a un poids, ça devrait venir avec les vérifications et l'évaluation diligente qui vient avec. Pas juste, on a entendu que dans une chronique quelque part, il y a quelqu'un qui a dit ça. C'est pas à ça que ça sert une motion de l'Assemblée nationale. Ouais. Et on a fait trop souvent des erreurs, pas attendu le résultat des réelles analyses, pas s'être penché sur les textes, pas avoir lu les verbatims pour condamner, mettre au banc des accusés, reconnaître coupables des personnes et d'autres institutions. La Cour suprême du Canada en est une. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste la plus haute cour du pays. Ben, il y a un minimum d'efforts à faire avant de faire voter des élus une motion. Puis j'ai l'impression qu'on prend ça beaucoup trop à la légère et qu'on a enlevé tout sérieux aux motions qui sont votées à l'Assemblée nationale.
Yasmine, il y a une femme de 73 ans qui est décédée l'été dernier d'un anévrisme dans les toilettes de l'urgence de l'hôpital de Joliette. Après avoir attendu 17 heures, elle n'a jamais vu de médecin. En fait, le moment où elle a pu voir des médecins, c'est au moment où on tentait de la réanimer. Il était un petit peu tard. Et le coroner André Quentin demande à ce que la qualité des soins prodigués à Mme Leclerc, ce type de soins, soit révisé. Ça commence à faire pas mal de monde qui meurt dans des urgences au Québec, tu trouves pas?
Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Julie, 17 heures à l'hôpital, après avoir fait 5 syncopes, la dame s'est présentée là. On lui a donné une priorité 4. Sur l'échelle des priorités, il y a 5 priorités. Mm-hmm. On lui a donné l'avant-dernière. Moi, j'arrive pas à comprendre ce système de triage. On a l'impression de finalement jouer à la loterie. On sait pas c'est quel chiffre qui va tomber. Ah, toi, t'es 4, toi, t'es 3. On sait pas finalement sur quoi c'est basé. Et sur quoi on s'est basé pour lui donner une priorité 4? Combien de fois on l'a revu au triage pendant les 17 heures de temps? Moi, je pense qu'il y a des réponses à donner parce que ce n'est pas normal qu'on continue à étioler tranquillement la relation de confiance que l'on entretient avec les établissements de santé. Quand c'est sérieux, là, puis là, cette dame, c'était sérieux, on a envie de rentrer puis d'être pris en charge, pas de mourir dans une toilette d'un hôpital d'une urgence, là. Je trouve que on l'a vu à Anne-à-la-Berge, on l'a vu dans d'autres centres hospitaliers, c'est indigne du Québec, c'est indigne des 50 milliards de dollars que l'on met annuellement dans notre système de santé. C'est indigne pour la société qui dit vouloir prendre soin de ses aînés. Moi, je suis honnêtement, là, je suis sous le choc, je suis ahurie de lire qu'elle a attendu 17 heures après avoir fait 5 syncopes et morte d'un anévrisme.
Yasmine, merci. Bon après-midi à toi.
Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel.
On apprenait aujourd'hui à Radio-Canada que le syndicat des avocats et notaires du Québec, ça, ce sont les juristes qui travaillent au sein de l'appareil gouvernemental. Ils travaillent comme légistes, ils écrivent des projets de loi, ils apportent des avis juridiques aux différents ministres. Ben, leur syndicat dénonce le fait que certains de leurs membres se voient vivre des pressions du politique, donc des ministres et leurs conseillers, pour qu'ils changent les avis juridiques qu'ils doivent écrire. Faut comprendre que les professionnels, notamment les avocats et notaires, sont régis par code de déontologie et qu'ils doivent pratiquer leur métier dans toute indépendance, offrir des avis juridiques en toute indépendance, sans pression indue par personne, certainement pas le gouvernement ou le politique. Et que finalement, cette pression qui est exercée sur eux de la part du gouvernement vient les mettre dans une drôle de situation où ils doivent choisir entre répondre à la commande politique ou respecter leur code de déontologie. Ça devrait pas avoir lieu dans d'ailleurs aucun État qui respecte l'État de droit, là, qui la règle de droit. Jamais les avocats et notaires, jamais les juristes de l'État ne devraient subir de pression pour changer les avis juridiques pour que ceux-ci disent la même chose que ce que le gouvernement veut entendre. Et ces allégations sont très graves. Évidemment, ça reste des allégations, rien n'est prouvé. Le ministre de la Justice aujourd'hui a annoncé une enquête de manière à faire une vérification sur ces propos-là, d'en faire le suivi. L'opposition les a talonnés durant la période de questions. Andrea Morin, qui est le député de l'Acadie et porte-parole officielle en matière de justice, a posé la question à monsieur le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Celui-ci a dit, ben, on va faire les vérifications, mais je n'ai pas entendu d'inquiétude. Je m'attends à ce que le ministre de la Justice soit inquiet lorsqu'il apprend que des juristes de l'État sentent qu'ils vivent certaines pressions. Peut-être que ce n'est même pas fondé, mais ça reste tout de même quelque chose de très inquiétant. Moi, j'ai hâte d'entendre toutes les parties prenantes en matière de justice là-dessus. Pour le moment, on va parler d'accès à la justice parce que le barreau du Québec fête en grand son 175e anniversaire en lançant dès aujourd'hui le marathon juridique qui vise à fournir de l'information juridique gratuite à la population. Des événements ont lieu un peu partout au Québec. On en parle avec Maître Catherine Claveau, bâtonnière du Québec. Bonjour, Maître Claveau.
Bonjour.
Alors, ce marathon juridique, pourquoi le marathon juridique en ce 175e anniversaire? Alors, il y a différentes autres initiatives de conseils juridiques pro bono?
Écoutez, nous nous sommes posé la question, nous nous sommes demandé quelles seraient les activités qui donneraient un sens à ce 175e anniversaire, justement. Puis, à force de réfléchir, on s'est dit, pourquoi pas démontrer que en 175 ans, les membres du barreau se sont engagés envers le public et quoi de mieux que d'offrir à travers la province une panoplie d'activités qui nous permet de se rapprocher des gens puis de leur donner des services gratuits. Donc, on a pensé que pour vraiment là partir les célébrations, d'y aller avec un 3 jours intense à travers le Québec d'activités, d'informations, de visites de palais de justice ou quoi que ce soit pour nous rapprocher des justiciables, on pensait que ce serait une bonne occasion de souligner notre 175e anniversaire.
Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers auxquels vous touchez? Puis évidemment, j'imagine que vous n'allez pas prendre, c'est pas des avocats qui vont prendre en charge des poursuites ou assurer la défense dans le cadre d'un procès, mais plutôt de l'information et des conseils très ponctuels. Est-ce qu'il y a des domaines en particulier du droit que vous allez couvrir?
Oui. D'abord, je vais vous donner le lien pour vous rendre sur le site web où est-ce que vous allez voir la panoplie des activités à travers le Québec, www.barreau.qc.ca. Alors, vous allez là-dessus, vous allez voir dans toute la province la nomenclature des activités. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, à Montréal, il y a une conférence sur les testaments et la succession. Il y a à Longueuil une formation pour les proches aidants. Aujourd'hui, présentement, actuellement, je vous parle, je suis au palais de justice de Trois-Rivières. Je viens de sortir d'une salle de cours. Il y a au moins 3 groupes d'élèves, à peu près 60 à 80 élèves d'école primaire de la région, qui font le tour du palais. Et là, je sors d'une salle de cours où est-ce qu'ils ont eu un genre de conférence avec un juge qui fait du droit criminel, un procureur de la défense, un procureur du DPCP, qui explique comment ça fonctionne un procès. Et là, c'était tellement intéressant. Je viens de sortir, puis il y avait les mains se levaient l'une après l'autre. Les jeunes sont intéressés de savoir comment ça fonctionne notre système de justice au Québec. Donc, un peu d'éducation aussi, c'est un des objectifs que nous essayons d'atteindre dans le cadre de ce marathon.
Il y a de ces crises qui, évidemment, on peut rapidement faire le lien avec des besoins en matière d'accès à la justice, que ce soit l'immigration, que ce soit le logement, le droit de la famille, évidemment. Est-ce que, de votre point de vue comme bâtonnière du Québec, vous voyez ça de proche, mais en même temps de loin dans sa globalité? Est-ce que l'accès à la justice se porte mieux depuis quelques années?
Bon, est-ce qu'elle se porte mieux? Je ne peux pas vous répondre très catégoriquement. Est-ce que c'est pire? Bien, c'est ça. La question est difficile à répondre clairement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, au barreau, j'ai 30 000 membres, on a 30 000 membres, on met l'épaule à la roue avec les autres instances pour voir comment on peut mieux accompagner les gens qui ont des problématiques avec des enjeux de justice, par exemple le droit au logement. Il y a beaucoup de cliniques juridiques où les gens peuvent peuvent aller demander de l'aide. Il y a les centres de justice de proximité. Et là, je parle vraiment des gens qui ont malheureusement pas les moyens là, de donner beaucoup, de mettre beaucoup de sous dans un procès. On a contribué avec d'autres acteurs et ministre de la Justice à changer, à modifier les lois qui font en sorte que plusieurs organismes sans but lucratif peuvent maintenant mieux accompagner les gens qui ont des problématiques, leur donner des vrais conseils juridiques. Puis ça me donne aussi l'occasion de vous parler de la clinique juridique de notre école du barreau. On a réformé notre école du barreau et maintenant, tous nos étudiants qui passent à travers l'école de barreau, dans leur cursus, sont obligés de passer par la clinique juridique. Donc, nous avons une grande clinique juridique étudiante à travers le Québec. Les gens qui ont des vrais problèmes peuvent communiquer avec nous. On leur donne rendez-vous avec un étudiant supervisé par un avocat. Il le rencontre, prend en note sa problématique, fait une recherche, le rencontre une deuxième fois. Donc, deux entrevues gratuites avec un étudiant accompagné d'un professionnel du droit pour l'accompagner, pour l'aider à mieux régler sa problématique. Fait que ça, c'est un exemple, mais aussi, je pourrais ajouter qu'on fait beaucoup la promotion des modes non judiciaires de règlement de conflits, dont la médiation. C'est quelque chose qui est très peu coûteux. Puis même maintenant, on voit que pour les petites créances, c'est devenu obligatoire dans certains districts.
Madame Maître Claveau, évidemment, on se parle aujourd'hui et aujourd'hui, on apprenait à Radio-Canada que certains juristes de l'État, des avocats et notaires qui travaillent au sein de l'appareil étatique disent, allèguent de subir des pressions de la part du politique pour... diriger leurs avis juridiques comme barreau, puisque vous avez comme principale mission, en fait, votre seule mission, c'est la protection du public et le respect des codes de déontologie. Est-ce que ça vous inquiète, ces allégations-là? Puis vous allez faire quoi à partir de là?
Écoutez, j'ai regardé la même nouvelle que vous dans les médias. Malheureusement, moi-même, personnellement, je n'ai personne qui me donnait des éléments pour documenter le dossier. Mais effectivement, nous sommes des officiers de justice, les avocats qui sont membres du barreau, on a un code de déontologie et nous devons évidemment le respecter. Donc, si on donne une opinion juridique, bien, il faut qu'elle soit basée sur la jurisprudence, sur la doctrine. En principe, ça doit être une opinion éclairée. Donc, c'est sûr que nous allons surveiller ça, mais malheureusement, comme je vous dis, j'ai lu la nouvelle comme vous, mais je ne suis pas au courant de tous les détails. Alors, je vais devoir peut-être donner une réponse plus complète quand on aura connaissance plus amplement du dossier.
Le ministre Jolin Barrette a annoncé qu'il allait faire des vérifications puis d'aller creuser cette question-là. Est-ce que vous allez exiger d'avoir accès aux conclusions de cette enquête administrative, selon l'étude, pour vous assurer qu'il n'y a pas?
Oui. Okay. Comme dans des dossiers du même genre, nous allons travailler en collaboration avec les parties prenantes. Nous allons voir si de notre côté, on peut pas aussi faire la lumière. Mais encore une fois, c'est difficile pour moi de vous répondre de façon assez précise de l'action que nous allons prendre. Mais nous allons surveiller si effectivement nos membres, qui sont aussi des officiers de justice, peuvent faire le travail selon la loi et notre code de déontologie.
Maître Catherine Claveau, bâtonnière du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Pour se débarrasser de locataires qui paient des loyers très bas et qui s'accrochent à leur bail, là, tu sais, comme. Ils veulent pas lâcher ce bail-là. Ben, certains propriétaires, ils font preuve d'originalité. Ils lésinent pas sur les moyens douteux, voire illégaux, pour les évincer. Et le journaliste du Journal de Montréal, Louis-Philippe Messier, a fait une chronique terrain pour dénoncer ça. Il a fait la nomenclature là de 10 tactiques pour écœurer les locataires et les pousser à décamper finalement et à briser le bail. On en parle avec Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour, Monsieur Dussault.
Bonjour.
Vous avez lu probablement la chronique comme moi. Je vous propose de passer une tactique à l'autre, puis que vous puissiez me décrire de votre expérience comment ils font ça, puis comment si vous avez des exemples, ça serait bien intéressant. On nous parle de l'accident opportun, puis ça c'est les maudits travaux qu'on nous amène, puis ça tombe toujours au bon moment, au moment où ils veulent évincer les locataires.
Oui, ben, ça fait plusieurs années déjà là, qu'on parle de rénoviction. Ça, c'est une des façons qu'on peut rénovincer des locataires. C'est que, ben, soudainement, il y a des travaux à apporter, mais bizarrement, il y a des travaux qui a apporté dans des logements pour des locataires qui paient moins cher de loyer que les autres. C'est ça. C'est ce qu'on appelle des accidents opportuns, là. Ça arrive. Parfois, c'est le dommage, puis il y a une autre tactique là, dont on parle plus tard, là, mais parfois le dommage est réel, mais il est causé par le propriétaire lui-même
Fait qu'il
là,
va
pour faire en sorte
sectionner
que.
un tuyau
Ouais.
en faisant semblant qu'il fait pas par exprès, mais il sait très bien ce qu'il fait pour dire ah oh, dommage, vous êtes inondé, je vais devoir vous évincer.
Oui, il y a eu un jugement d'ailleurs cette année au tribunal administratif du logement où je me rappelle plus comment ça avait été prouvé exactement là, mais il me semble
C'est
que
un peu
c'est
difficile.
l'employé qui avait travaillé pour le propriétaire qui avait avoué là, mais qui avait fait plusieurs choses à la demande du propriétaire pour endommager le logement là. D'ailleurs, percer le toit pour que la pluie entre là, ça avait été une des choses qu'il avait fait, mais
Wow.
oui, bloquer des tuyaux, toutes sortes de choses là, donc. Ouais, malheureusement, c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes là, comme tactiques qui sont utilisées par des propriétaires.
La deuxième tactique qui est relatée, c'est celle de compliquer le paiement du loyer. Fait que le locataire, lui,
Oui.
il veut payer son loyer qui est moins cher que ce qu'il y a sur le terrain. Il veut le payer, mais on va rendre ça plus difficile. Il va falloir des plateformes en ligne, tu sais, pour les personnes plus aînées qui sont moins à l'aise avec le numérique. On va rendre la vie difficile pour que ce transfert d'argent-là se fasse. C'est drôle, des propriétaires qui veulent pas nécessairement récupérer leur dû.
Oui, ben justement, puis ça, c'est particulièrement important que les locataires soient vigilants par rapport à ça. Faut être vraiment vigilant. Faut regarder vraiment si à chaque mois votre loyer est encaissé. Parce que oui, c'est une tactique, encore une fois, qui est de plus en plus fréquente, là. Les propriétaires n'encaissent pas le montant du loyer pour pouvoir par la suite ouvrir une cause au tribunal administratif du logement pour non-paiement. Quand ça se répète sur plusieurs mois, ben si les locataires ont pas nécessairement regardé si le loyer passait, ben ils savent pas nécessairement qu'ils ont des loyers impayés. Puis il faut au moment où ils se présentent à l'audience au tribunal administratif du logement, il faut qu'ils paient sur le champ les loyers impayés, sinon ils vont être à risque d'être expulsés. Donc évidemment, il y a des locataires qui sont pas au courant, qui ont pas nécessairement gardé cet argent-là. Il y a des gens qui sont expulsés pour ça, mais c'est vraiment involontaire, là. C'est pas parce que les locataires ne voulaient pas payer leur loyer. Puis dans certains cas, là, on a des locataires qui vraiment là, font des pieds et des mains pour pouvoir payer leur loyer, ce qui est complètement absurde, mais qui sont pas capables de joindre leur propriétaire. Vous avez des propriétaires, par exemple, qui mettent sur le bail, plutôt que de mettre des coordonnées où ils sont joignables, ils vont mettre une case postale. Et puis ces propriétaires-là, il y a des propriétaires des fois qui sont injoignables, il y en a qui passent l'hiver,
En
vont
Floride.
passer l'hiver en Floride, par exemple, puis qui, au moment même où du renouvellement du bail, de l'avis d'OSE, ben on a de la difficulté à leur répondre. Donc, pour le paiement du loyer, il y en a qui sont tout aussi injoignables. Donc, ça devient une tactique, encore une fois, là, qui est assez fréquente. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est important que les locataires le sachent aussi, c'est que si on ne paie pas son loyer à la date due, puis s'il y a des retards fréquents ou si il y a des retards de plus de 21 jours, ben au tribunal administratif du logement, il est assez facile pour des propriétaires de vous expulser pour non-paiement. Donc, il faut être particulièrement vigilant par rapport au paiement du loyer.
Il y a certaines, là, je vais aller sur celles qui m'intriguent le plus, là, enlever la serrure. Tu sais, un propriétaire, normalement, ça veut protéger son bien, qui veut pas qu'il y ait n'importe qui rentre là-dedans. Ben, il y a des propriétaires peu scrupuleux qui sont prêts à enlever la serrure rien que pour rendre l'endroit invivable pour le locataire.
Ah, il y a des propriétaires, moi j'ai entendu cette année des locataires qui se sont fait enlever leur porte d'entrée. Puis pas une seule journée, là, plusieurs jours.
Mais ça, c'est
Plusieurs
légal?
jours, ouais, ben non, évidemment pas, mais Il y a des locataires qui ont vécu ça. Il y a un locataire, par exemple, qui justement s'est fait enlever sa porte d'entrée. Heureusement, c'était pendant l'été, là. Donc, il faisait pas moins 25, mais quand même. Puis c'était, je pense que c'était une toile simplement qui avait été mise devant sa porte d'entrée. Mais le locataire travaillait, puis quand il est revenu du travail le soir, il s'était fait voler évidemment dans son appartement. Donc, ouais, c'est. Il y a des choses comme ça. Tous les moyens sont bons, en fait, là, justement, pour rendre l'endroit de plus en plus invivable pour les locataires, pour les forcer à quitter.
Ben, il y a même, je lis, joué à Big Brother, un propriétaire d'un immeuble de logement à Jean Talon.
Ouais.
Il passe sa
ouais.
vie à surveiller les locataires. Il intimide ouais. les livreurs, le gars de Vidéotron, il appelle les locataires pour les chicaner. OK, il est propriétaire
ouais.
à temps plein, lui.
Oui, ça, c'est un cas particulier, là, puis c'est vraiment un cas extrême, mais ça, c'est quelqu'un qui vraiment, tu sais, a peut-être aussi des problèmes de santé mentale, je okay. dirais, mais il y a quand même énormément de propriétaires qui vont au-delà de ce qu'ils ont droit de faire. Faut savoir que quand on a un logement, quand on paie le loyer, c'est un transfert de propriété. Il y a beaucoup de propriétaires qui agissent comme si le logement ben oui, le bâtiment leur appartient, mais comme s'ils avaient tous les droits encore dans le logement. Mais à partir du moment où, comme locataire, vous payez le loyer, c'est un transfert de propriété, vous êtes chez vous. Donc, le propriétaire ne peut pas entrer comme il veut chez vous, ne peut pas vous surveiller nécessairement, ne peut pas vous demander là, de faire des choses qui ne sont pas nécessairement... sont abusives, en fait, là. Il y a des règlements d'immeubles, évidemment, là, pour assurer là, la bonne cohabitation avec les autres locataires.
Ben oui.
Sauf qu'il y a des choses qui sont complètement abusives, des fois, qui sont demandées aux locataires. Là. Donc, il faut savoir que quand on paie le loyer, on est chez soi. Donc, le cas qui est nommé ici, évidemment, là, il est assez extrême, mais c'est pas rare qu'il y ait des propriétaires qui surveillent leurs locataires, qui demandent des choses... qui sont complètement abusives là, et qui vont au-delà là, de ce qu'ils ont le droit de faire.
C'est assez particulier. Allez voir la liste, là, elle est super intéressante dans le Journal de Montréal. Il y a du monde qui drille des toits, qui font passer du monde pour des avocats. Écoutez, c'est assez fou. Ils louent des appartements qui sont déjà occupés. Ils disent qu'il y a de l'amiante. Ah ouais, tout le monde sort. Bref. Beaucoup d'imagination dans le monde des propriétaires. J'imagine, on va essayer de faire une autre liste de celui des locataires. Là. Ça doit être aussi original et intéressant. Cédric Dussault, porte-parole des regroupements des comités de logement et associations de locataires du Québec. Je vais vous réinviter pour que vous venez nous expliquer comment les locataires font ça.
Oui, bien évidemment, il y a les locataires, en fait... sont peut-être un petit peu moins imaginatifs parce qu'ils ont un peu moins à gagner nécessairement. Ouais. Là, mais malheureusement, c'est ça. Il y a ce genre de tactique-là. Puis j'aimerais ça dire aussi que il faut être particulièrement vigilant par rapport à ça parce que ça se multiplie un peu partout au Québec. C'est pas seulement à Montréal. Là, on interviewait Mme Barry, là, qui est coordonnatrice du comité logement Petite Patrie. Mais soyez comme locataire vigilant à ce genre de choses-là, puis contactez un comité logement si jamais vous. Pensez que vous êtes victime là, d'une tactique de ce genre-là par un propriétaire.
Merci beaucoup, Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.